Bonjour et bienvenue dans votre chronique culture du département du mois de novembre. Cette émission était coproduite entre le département de l'Eure et Principe Actif. Bonjour Marie, bonjour Florence, comment allez-vous ?
Bonjour JC.
Alors, au sommaire de cette émission, nous ferons un tour non exhaustif des événements culturels départementaux et nous commencerons par l'abbaye Saint-Nicolas.
Oui, Xavier Lebon qui va venir nous parler du parloir de l'abbesse et de l'abbaye Saint-Nicolas qui se situe à Verneuil-sur-Avre dans le sud du département.
Nous parlerons également Petit Lu.
Oui, on reçoit Céline Joubert, qui est bibliothécaire jeunesse à la médiathèque départementale, qui nous parlera du Petit Lu, qui est une sélection des ouvrages jeunesse.
Nous ferons un petit tour du côté des rendez-vous du mois de novembre-décembre, dans les événements qui se passeront autour de chez vous. Et puis, tout de suite, sans plus attendre, nous retrouvons notre rubrique « Le saviez-vous ?».
Le saviez-vous que Jimi Hendrix est venu à Évreux? Il est venu alors qu'il n'était pas connu du tout. Il était en première partie de Johnny Hallyday le 13 octobre 1966. Ça a été son premier concert en Europe. Et au début, les journalistes trouvaient que c'était un assourdissant vacarme. Voilà. Donc on va écouter Jimi Hendrix, Hey Joe.
Ce bruit assourdissant, mémorable, qui aura quand même marqué l'histoire du rock'n'roll, Marie.
Tout à fait, c'est un morceau qui sortira quelques mois après son passage à Évreux d'ailleurs. Alors c'est pas un morceau de lui, on sait pas d'ailleurs qui a écrit ce morceau, il est attribué à Billy Roberts, mais c'est évidemment la version de Jimi Hendrix qui est la plus connue. Et puis voilà, il l'enregistrera fin 66, donc juste quelques mois après son passage ici. Donc ce vacarme assourdissant aura eu quand même son succès.
Comme quoi, des fois, c'est être un peu en avance, être en avance sur son temps, on récolte pas les lauriers forcément. Hein.
Tout à fait. Et c'est marrant parce que ce jour-là, son nom avait été rajouté sur l'affiche au stylo, alors que maintenant, on peut presque dire que l'élève a dépassé le maître.
Largement, pourrions-nous dire. Marie, nous poursuivons en musique parce que nous avons la chance d'avoir des programmatrices, des programmateurs musicaux.
Oui, tout à fait. Donc, c'est un morceau qui fait partie de la sélection de la médiathèque départementale. Ce sont des titres qu'on peut retrouver sur Music Me, sur la plateforme de la médiathèque départementale. Et donc là, c'est un morceau de Yard Act qui est plutôt punk, mais là, l'album en question qui s'appelle Where's My Utopia est plutôt pop hip-hop. En fait, il se renouvelle à chaque album. Voilà, c'est très british et le morceau qu'on va écouter, c'est When the Louder Stops. I got the call for the audition. It was the chance of a lifetime. Said, if all requirements of this role come to fruition, you'll never work another day in your life. So I let my hair grow wrong, don't shave my face. I got some brand new boots and gained a bit of weight. But when I finally got the script in for the role which I was hoping, it said I'd play the victim, shot dead in the cold open. Time's up, don't be scared. The future's got a room without a view in your own head. Head down, no comment. It's just a matter of opinion. Don't let no one ever know about the burden that you smuggle in. You dry your eyes at the gates, I hide the struggle. The stories that you're juggling, the fear you must be funneling. Very cool, you're worried. Pain is such a funny thing.
our success we're casting from the same subset of men whose fleeting failures are all they ever knew. With a straight face beyond repair, digging a grave of nil despair between the crosshairs of a crop that never grew. We pay no respect to common intellect and watch the insects suck the marrow from the bone. For when we go back to our proper jobs and realize the laughter stops, I need to know my chance was fully blown.
Voilà, donc c'était donc The When the Laughter Stops, excusez-moi pour la prononciation, en featuring avec Katie G. Pearson, et c'est extrait de leur deuxième album, Where's My Utopia.
Et maintenant, nous allons interviewer Xavier Lebon, qui est vice-président à l'Interco Normandie Sud-Eure et qui s'occupe du tourisme et du patrimoine, parce que dans cet Interco, il y a l'abbaye Saint-Nicolas de Verneuil-sur-Avre, où il se passe pas mal de choses. Bonjour Monsieur Lebon.
Bonjour.
Donc, vous occupez aussi donc, de l'abbaye Saint-Nicolas. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu, quelques mots sur cette abbaye? Qu'est-ce qui s'y passe actuellement?
Ouais, un peu sur l'histoire de l'abbaye. Assez rapidement sur l'histoire de l'abbaye. L'abbaye elle a été créée en 1927 sur les bases d'une ancienne église, hein, l'église Saint-Nicolas de Verneuil, par Charlotte de Hautemer, qui était la veuve de Pierre Rouxel de Médavie, qui était baron et gouverneur de Verneuil. La première abbesse fut une de ses filles, hein, sa sixième fille sur les dix filles qu'elle avait. L'abbaye et ses bénédictines ont évidemment fait partie intégrante de Verneuil, comme vous l'avez souligné, pendant presque quatre siècles. Hein, on parle de 1727, de 1627, donc on arrive bientôt à 2027. Elle a traversé toutes les étapes de l'histoire de France, comme on peut bien s'en douter, avec la Révolution. Ouais. Et les guerres successives, elle s'est adaptée à chaque difficulté. Elle a connu aussi des étapes un peu de commerce pour s'adapter économiquement, pour survivre. Donc il y avait une biscuiterie au XXe siècle qui a été créée par les sœurs et qui permettait de vendre leurs biscuits, leurs fameuses nonnettes, hein, pour pouvoir avoir des moyens financiers pour entretenir le site. Que c'est 5000 mètres carrés de bâti à peu près, hein, sur 3-4 hectares. Et puis un pensionnat de jeunes filles aussi un peu avant, au 19e siècle, hein, qui permettait aussi de faire rentrer un peu d'argent dans les caisses. L'abbaye a connu jusqu'à 80 bénédictines, hein, qui habitaient dans ce lieu. C'était l'apogée de l'abbaye au milieu du 19e siècle. Et donc en 2001, je fais très court, hein, en 2001, elles étaient assez peu nombreuses, parce qu'elles sont arrivées, elles étaient 5 ou 6, 3G également, donc elles ne pouvaient pas s'occuper du site, et donc elles se sont résignées à quitter leur abbaye pour s'installer à l'abbaye de Valmont, près de Fécamp, et donc elles ont quitté le lieu. De 2001 à 2009, il y a eu une période où l'abbaye était confiée à une petite communauté chrétienne. Et puis en 2009, finalement, l'évêché a préféré vendre le site, et donc c'est la communauté de communes de Verneuil à l'époque qui l'a acquise. Voilà.
C'est un site quand même qui est particulièrement majestueux. En fait, il est vraiment particulièrement beau. En fait, on pourrait dire. C'est lié à quelque chose d'historique en particulier, parce qu'il est vraiment majestueux. En fait, cette abbaye est majestueuse.
Ouais, c'est surprenante parce qu'en fait, elle se voit pas finalement quand on visite Verneuil. Il faut vraiment chercher. Elle est pourtant au cœur de ville. Elle est juste à côté de la Nationale 12. Et finalement, quand on traverse, quand on passe sur la Nationale 12, on le voit pas du tout. Donc, il est à la fois majestueux par sa taille et très discret puisque faut vraiment rentrer dans le site pour l'apercevoir. Sinon, on le voit pas du tout. Il a été était construit au fur et à mesure, hein, au fur et à mesure des besoins. Ça a commencé par l'église qui a été donnée au moment de la création de l'abbaye. Et puis après, au fur et à mesure, ils ont fait le cloître, ils ont fermé le cloître et le pensionnat. Et puis après, les fermes pour pouvoir être en autarcie, parce que les sœurs étaient complètement en autarcie dans ce lieu-là. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, au milieu du XXe siècle, une biscuiterie pour pouvoir entretenir l'ensemble.
Et maintenant, enfin, est-ce qu'il y a des visibilités qui sont ouvertes? Enfin, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette abbaye en fait maintenant?
Alors aujourd'hui, on y a plein d'activités différentes. Quand la communauté de communes à l'époque l'avait acquise, il y avait un gros projet qui était un projet d'installation de musée qui a pas été au bout du projet. Aujourd'hui, l'idée c'est de transmettre ce patrimoine à nos enfants, au futur. Et en attendant, il y a des tournages de films. On y a des expositions 2-3 fois dans l'année qui sont soit culturelles, soit familiales, soit les deux. Hein. Par exemple, on a l'expo Playmobil qui va ouvrir du 21 décembre jusqu'au 5 janvier. Donc c'est une exposition gratuite et donc tout le monde peut y venir. On y a tous les ans depuis 3 ans canton d'automne. Et donc ça, c'est une organisation avec les associations du territoire à destination des familles et qui est organisée par notre service enfants jeunesse de l'Interco. On y a évidemment des visites guidées par des guides du patrimoine qui maîtrisent bien l'histoire, et donc c'est une visite guidée d'à peu près 2 heures sur l'ensemble du site, avec vraiment toute l'histoire du site. Et puis en parallèle de ça, beaucoup de travaux de restructuration et d'amélioration sur le site. Mais l'idée principale est de préserver vraiment pour les générations futures.
Et justement, quand vous parlez de travaux, vous avez restauré le parleur de la Besse. Ouais. Enfin, quel était le but de la restauration et comment vous le présentez maintenant en public?
Ouais, donc le parloir de la Besse, c'est vraiment, il faut être dedans pour se rendre compte, parce qu'on peut voir des photos, mais on s'en rend pas vraiment compte. Le parloir de la Besse, c'est là où la Besse recevait ses visiteurs. Et donc c'est une pièce carrée relativement simple, sauf que à l'intérieur, sur des murs en torchis, il y a que des panneaux de bois qui ont été posés tout autour et au plafond, et l'ensemble a été peint par des sœurs à l'époque, parce que l'histoire est pas complètement certaine. On imagine que ça a été peint à plusieurs mains. Donc en fait, on a un parloir où il n'y a que le plancher et des fenêtres, sinon tout le reste c'est entièrement peint peint sur des paysages, sur des sites. Et comme je vous le dis, on n'a pas toutes les histoires par rapport à ce qui est peint et qui les a peints. C'était un parloir qui était c'est une pièce qui est emblématique parce qu'elle est elle est unique en France, voire même en Europe, hein, c'est les spécialistes qui le disent, c'est pas moi. Et ce qui était important, c'était qu'elle commençait à se dégrader avec l'usure du temps, avec les UV, avec le passage de l'homme. Et donc, il était important pour nous de le restaurer, parce que les peintures étaient un peu jaunies ou un peu passées. Donc, on a fait la restauration entière de ce parloir-là, donc avec des spécialistes. L'ensemble du parloir a été démonté en janvier 2023. Il a été reposé là, restauré complètement en septembre 2024, donc là c'est tout récent, et donc elle a retrouvé son éclat de sa première jeunesse, et donc en même temps que cette restauration, on essaye d'organiser pour le futur, et donc on y a mis à l'intérieur des appareils de déshumidification et de chauffage, et on a protégé aussi avec les contre les UV pour éviter que ça se dégrade à nouveau. Le parloir est accessible sur les visites guidées uniquement. Les visites guidées sont organisées par notre office du tourisme, Normandie Sud Tourisme, qui se trouve dont le siège se trouve à Verneuil-sur-Avre.
Et vous parliez de spécialistes donc qui sont intervenus sur la restauration. Quel genre de spécialistes, j'imagine, pour restaurer les peintures? Est-ce qu'il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été faites dans cette pièce?
Non, pas du tout, parce que c'est une pièce qui est à l'étage. Et donc il s'agissait de démonter les panneaux de bois. Donc en fait, on a deux spécialistes qui sont intervenus, en plus de artisans du territoire, puisque c'est les ateliers de Giordani sur le Neubourg. Qui se sont occupés de tout ce qui est peinture, donc le vernis, les peintures propres, et puis dans ces jaillettes au Neubourg pour les vernis, et Giordani sur Rouen pour tout ce qui est boiserie. Voilà, parce qu'il fallait à la fois restaurer le support et à la fois la peinture.
Non, vas-y Marie, on se regarde, mais...
Et moi je suis au téléphone, donc je ne vous vois pas, c'est un peu plus difficile.
Et quels sont les autres projets de restauration à l'abbaye Saint-Nicolas?
Alors on a encore un élément patrimonial remarquable sur notre site, puisqu'en fait les sœurs avaient acheté les remparts médiévaux, et a priori, ça permettait de faire la clôture du... elles s'en sont servies comme clôture de l'abbaye. Et c'est le linéaire le plus important en Normandie dans cet état de conservation. Il y a 360 mètres linéaires de remparts qui ont une épaisseur de 4-5 mètres. La prochaine grosse étape, parce qu'en fait on ne s'arrête jamais, il y a toujours des restaurations, mais la prochaine grosse étape, c'est à la fois de restaurer, de cristalliser ces remparts. L'idée, c'est pas de les reconstruire, mais c'est de les cristalliser pour plus qu'ils se dégradent. Aussi changer l'accès, parce qu'en fait on a un accès qui est compliqué, qui est aujourd'hui par le centre historique, et pour amener des cars ou des touristes, c'est un peu compliqué. Donc l'idée c'est de construire une passerelle sur les fossés, puisque derrière les remparts il y a des fossés, avec des fossés médiévaux également, et donc une passerelle qui permettra d'arriver directement de la périphérie de la ville.
D'accord.
Ça c'est le gros chantier. Sinon, évidemment, on a des restaurations de vitraux qu'on fait régulièrement, de toitures, vous imaginez bien, parce que mm-hmm. la toiture, ça, hein, donc on, l'idée, c'est qu'on conserve l'ensemble en état. Donc c'est sans arrêt sur les toitures, sur des murs, sur les vitraux.
D'accord. Et si je comprends bien, donc en 2027, il y aura une grande fête à l'abbaye Saint-Nicolas.
C'est ça. Faut juste qu'on qu'on l'organise, mais c'est indispensable, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Lebon. Et donc, j'invite tous les auditeurs à aller à l'abbaye Saint-Nicolas le plus vite possible.
Avec plaisir. Merci.
Au revoir.
Au revoir, merci. Au revoir.
Et nous repartons en musique avec un autre choix de la bibliothèque départementale, Marie.
Alors, c'est pas un choix de la bibliothèque départementale, c'est un choix personnel puisqu'il passe en concert au Cube fin novembre, mais je les présenterai après. C'est un morceau des You Said Strange qui viennent de Giverny. Donc, c'était un morceau des You Said Strange, comme je vous l'ai dit, qui vient de Giverny. À la base, ce sont deux frères, les frères Carrière, qui sont aussi à l'initiative du festival Rock in the Barn, qui maintenant a lieu à Vernon. Et donc, ça, c'était... Alors, le morceau s'appelle Song for a Wasted Land, et c'est issu de la deuxième partie de leur deuxième album, Thousand Shadows, qui était sorti en 2023. Et donc, on les retrouve en concert le 30 novembre au Cube. C'est leur dernier concert de, donc, c'est le concert de fin de tournée en France. Ce sera certainement le dernier concert en France avant longtemps, parce qu'ils font une grande pause et vont plutôt tourner aux États-Unis. Voilà. Et bien maintenant on reçoit Céline Joubert, donc qui est bibliothécaire jeunesse à la médiathèque départementale et qui vient nous présenter Le Petit Lu, donc qui est un ouvrage de sélection d'albums jeunesse sortis dans l'année et qui paraîtra le 6 décembre. Bonjour Céline.
Bonjour. Alors Le Petit Lu, qu'est-ce que c'est en fait ?
Le Petit Lu, c'est une petite brochure que vous retrouverez dans vos médiathèques de tout le département, mais ailleurs également, qui va regrouper 122 titres jeunesse qui ont été remarqués par un comité de bibliothécaires et de libraires. Donc on va autant trouver de l'album que du roman, de la bande dessinée, du manga, un peu de poésie, pas trop de théâtre, mais voilà, un petit peu de tout pour donner envie aux enfants de tous les âges de lire.
Par rapport à toutes ces sorties littéraires, quels sont les critères qui font la sélection ?
Alors la qualité, déjà, c'est quand même le plus important. L'originalité aussi, donc ça peut être autant dans le trait, dans le dessin, que sur le sujet, sur la façon de traiter un sujet. Voilà, ça va être vraiment ces deux critères-là qui vont vraiment prévaloir.
Prévaloir.
Donc
vous réunissez tout au long de l'année, comment ça se passe ?
C'est ça, donc on est une trentaine de bibliothécaires et libraires et on se réunit une fois par mois et on traite les sorties du mois précédent. Donc on regarde à peu près 3000 ouvrages dans l'année et on les critique ensemble et on échange autour de ces livres. Et au fur et à mesure, voilà, il y a certains titres qui ressortent et à la fin, il faut quand même en enlever parce qu'on en a trop, on en a beaucoup plus que 122 au mois de juin.
C'est ça, parce que sur 3000 lectures, n'en garder que 120, ça doit être horrible ce moment.
C'est un horrible choix. À la fin de l'année, on a tous nos coups de cœur, donc on est un petit peu tous à voter pour certains titres, mais on arrive toujours à se mettre d'accord.
Ces 120 titres, une fois qu'ils sont passés par la moulinette du Petit Lu, justement, on les retrouve en médiathèque, on les retrouve sur la bibliothèque départementale. Comment ça se passe ?
Alors, bien sûr, ils sont à la médiathèque départementale. Donc, toutes les bibliothèques du département peuvent les emprunter, les réserver et nous les emprunter. Ils peuvent également les acheter. On va les retrouver, donc, par exemple, dans la librairie partenaire qui nous fait les offices de livres chaque mois, l'Oiseau Lire à Évreux. Donc vous les retrouvez aussi. Et donc ils ont des petits macarons reprenant l'illustration du Petit Lu sur les livres pour les repérer.
L'illustration du Petit Lu d'ailleurs, qui est-ce qui l'a fait ?
Alors cette année, on est très heureux, c'est Bernadette Gervais, donc qui est autrice illustratrice belge, qui est vraiment très reconnue dans le métier, qui a eu beaucoup de prix à l'international, donc qui nous a fait l'illustration pour le prix des dévoreurs, l'affiche, et donc l'illustration du Petit Lu, et elle a un style un peu vintage, je trouve, et ça apporte vraiment une touche très différente des autres années, donc ça va être un très beau visuel.
c'est un repère pour des parents, pour des tontons, tatas qui recherchent de la littérature jeunesse. Non, mais ça fourmille tellement la littérature jeunesse que finalement, pour s'y retrouver, faut être un spécialiste ou une spécialiste.
C'est un peu compliqué.
Voilà, c'est ça. Le but du jeu, c'est aussi de guider les parents, j'imagine.
Oui, oui, oui. La littérature jeunesse, ça a explosé au fur et à mesure des années.
Il y a un peu de tout, hein. Il y a à boire et à manger quand même. Hein.
Voilà, et il y a énormément, énormément de choses qui sortent et c'est compliqué de se repérer. Et un livre de qualité, un enfant n'aura pas le même ressenti et le même regard. C'est un livre qui restera dans ses pensées plus tard aussi. C'est vraiment des livres qui peuvent marquer. Donc, je ne sais plus quelle était la question, je suis désolée.
Petit coup le repère, non, il n'y a pas de souci.
Voilà, oui, donc ça sert
c'est le repère, voilà, pour donc, nous aider, nous qui ne sommes pas spécialistes, à trouver un bon titre.
Oui.
C'est compliqué de le dire parce que ça dépend du lecteur, toujours le bon titre.
Voilà, c'est ça, ça dépend des goûts et des couleurs, hein, c'est pareil. Mais ça va aider autant des bibliothécaires pour leurs achats que des professionnels de la petite enfance, des assistantes maternelles. On en voit vraiment très largement le petit lu et autant des parents. Et des oncles et tantes, exactement. Pour Noël, ça sera le bon timing.
Et à partir de quel âge vous avez fait les sélections jusqu'aux adultes, enfin jusqu'aux adolescents?
Du début, donc on a la première tranche d'âge petit, c'est 0-5 ans. Et après, ça va jusqu'aux grands ados, lycées et même adultes. Hein, vraiment, ce qui est dans la catégorie adolescente du petit lu peut être très bien lu par des adultes. C'est vraiment la littérature qui s'apprécie à tout âge.
Et quand ils sont sélectionnés, les livres, est-ce que vous avertissez les auteurs?
Les éditeurs. Et en fait, ce sont eux qui transmettent. On leur envoie les petits lus quand on a les brochures aux éditeurs. Et ils préviennent les auteurs, qui sont généralement très contents. Puisqu'on a des éditeurs québécois qui sont ravis qu'on leur fasse traverser, qu'on fait traverser la Manche. Enfin, la Manche. L'océan.
Non, c'est pas la Manche. Vous en avez sur la géographie? Vous en avez sur la géographie?
Non, mais je devrais. Je suis très, très mauvaise. Je suis plus littérature que géographie. Donc, non, on a des éditeurs de tout pays et on leur envoie. Du moment qu'ils sont francophones, bien évidemment.
Est-ce qu'il y a un petit événement de créer autour de la sortie du Petit Lu?
Alors, on fait un lancement en présence de Bernadette Gervais, donc le vendredi 6 décembre, le matin. Donc, elle sera là pour rencontrer les personnes à la médiathèque départementale, présenter son travail. Elle va même nous faire une démo en direct de ses techniques d'illustration. Donc, ça va être un moment très, très chouette.
Sur cette sélection, vous le disiez, il y a 120 ouvrages retenus. Je vois que vous êtes venu avec quelques-uns, un exemple par tranche d'âge, c'est ça l'idée?
Oui.
On peut avoir un peu une idée, que vous nous les pitchiez un petit peu, qu'on voit un petit peu quel est ce contenu en fonction des tranches d'âge?
Alors, pour les petits, je vous ai ramené un album qui s'appelle « Mon t-shirt et moi » de Michael Escoffier et Karine Bélanger. Donc, c'est un petit album très rigolo sur un tout petit qui adore son t-shirt parce que c'est un t-shirt de super-héros. Et quand on a un t-shirt de super-héros, on se fait pas embêter parce que vraiment, tout le monde pense qu'on a un super-héros. Mais un jour, faut le laver le t-shirt. Et là, c'est un peu le drame, surtout quand il rétrécit. Mais bon, ça se terminera bien.
Ce qui est assez drôle, c'est que ça ressemble quasiment au quotidien de parents, ça. Le t-shirt préféré, il faut le mettre tous les jours.
C'est comme le doudou, voilà, c'est un peu... Et donc, l'illustration, elle est très dynamique, c'est très sympa, c'est coloré. Ça plaira autant aux parents qu'aux enfants, parce qu'ils se retrouveront dedans.
Très bien, donc ça, c'est les 0-5 ans.
Oui, tout à fait.
J'imagine qu'il y a une catégorie après 5-7 ans, quelque chose comme ça,
5-10.
5-10, très bien.
On est plus large. Et là, je vais ramener la blessure d'Emma Adbage, j'espère ne pas trop mal prononcer le nom suédois de l'autrice. Et donc là, ça s'appelle La blessure. Et alors, c'est pour les parents d'enfants de cet âge-là, ils sauront que quand un enfant se blesse, c'est vite le drame. La blessure saigne, ah là là, mon Dieu. Mais après, en même temps, il y a une petite fierté à avoir son gros pansement. Et puis voilà, l'enfant là va tomber dans la cour de récré, va être un peu la star de l'école pendant le temps de sa blessure. Et donc, on s'y retrouve aussi en tant que parent, mais en tant qu'enfant aussi, ça marche très très bien. Malgré un dessin qui vraiment change de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir en France, parce que c'est un dessin qu'on retrouve beaucoup dans l'illustration des pays du Nord, mais c'est vraiment très chouette et ça marche très très bien et ça va jusqu'à la fin de la blessure. Et la chute, je vous la dis pas, mais elle est assez savoureuse, surtout pour ceux qui vont à la piscine, ils comprendront et ils apprécieront.
Quand on dépasse les 10 ans, on attaque le roman, c'est ça?
Oui, alors il y a des romans aussi hein, dans les 5-10 ans, mais là j'ai essayé de vous prendre différents genres. Mais et vu que je pouvais pas ramener plein de genres...
Les 120, ça passait pas, on portait pas les cartons.
Non, j'aurais eu du mal à les monter. Donc là, on est plus sur les 10-15 ans. Et donc là, j'ai prévu un roman de Florence Médina, La Tour de Jeanne. Donc là, on va suivre Jeanne, qui est domestique à Paris, pendant la construction de la Tour Eiffel. Et donc, elle travaille chez des riches bourgeois qui sont sur la place face à la tour Eiffel. Donc, elle voit la tour s'élever et elle n'a qu'une envie, c'est d'être aux côtés de ceux qui y travaillent. Et elle n'a qu'une envie, c'est de travailler à la tour Eiffel, de vraiment mettre les mains dans le cambouis. Sauf que c'est une femme, que ce n'est pas possible. Et donc, elle va décider au moment où elle se fait renvoyer liée au mauvais comportement d'un homme, elle décide de se travestir et de monter sur la tour Eiffel. Et on va suivre ça, et c'est vraiment passionnant parce qu'on apprend plein de choses sur la tour Eiffel déjà, mais aussi surtout sur les conditions de vie des travailleurs à Paris à cette époque-là, et sur les conditions des femmes aussi. Et c'est vraiment passionnant, et le personnage de Jeanne est très très attachant.
Très bien, ça c'est pour les 10...
15 ans.
15 ans, voilà, 10-15 ans.
Plutôt collégien, oui.
Plutôt collégien. On poursuit après, quand on a un petit peu plus grandi, à partir de 15 ans, c'est ça?
Oui, voilà, donc là c'est plus lycée et adulte. Donc c'est Ruby, c'est une bande dessinée italienne d'Irene Marchesini et Carlotta Di Cataldo. Donc excusez mon accent. Donc là c'est vraiment une histoire très sympa. Sympa mais pas très gay. Donc en fait c'est l'histoire d'un petit garçon qui naît albinos à une époque où ça porte malheur, c'est au Moyen-Âge, il y a des sorcières qui se font brûler etc. Et donc un enfant albinos ça porte forcément malheur, c'est sa faute si les récoltes ne vont pas, si les poules ne pondent plus d'œufs etc. Donc sa famille va finir par le chasser parce qu'il est considéré comme maudit et il va se réfugier chez une femme qui est considérée comme une sorcière au fond de la forêt et c'est elle qui va... vraiment l'éduquer, et c'est vraiment très intéressant de voir ces deux rejetés qui vont se lier, et ça parle aussi de la condition féminine à cette époque-là, comment les femmes qui ne rentraient pas dans le moule étaient vite pointées du doigt et vite déclarées sorcières.
Et là, quand on parle BD, on parle déjà presque de roman graphique, en fait, hein, parce que c'est très épais. Hein,
Oui, c'est pour ça que c'est pour les plus grands. Autant au niveau du sujet... Et parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de recul pour comprendre cette histoire-là aussi, et autant effectivement de l'épaisseur.
Au-delà de 15 ans, on poursuit, c'est ça? Il y a les plus de 15 ans
Non. Après, j'ai ramené un livre de l'illustratrice, parce que c'est une autrice qu'on adore aussi, qui a un côté très vintage, elle travaille beaucoup au pochoir, et ça donne des grandes images.
On est sur un imagier, là, c'est
voilà,
ça?
Voilà, oui. C'est un imagier. Et donc, celui-ci est vraiment très chouette parce que c'est des trucs comme ci, des trucs comme ça, de Bernadette Gervais. Et donc, ça va être les trucs qui coupent. Et elle va mettre plein d'images d'objets qui coupent, des trucs qui piquent, voilà, etc. Et donc, c'est un imagier très sympa pour travailler avec les petits. Et en plus, elle a ce côté où c'est vraiment dans la finesse, c'est vraiment dans le détail de ses illustrations. C'est vraiment très chouette.
On le rappelle, disponible tout ça sur... Enfin, la sélection qui est bien plus grande que ça, hein, en fait. Hein, disponible sur le réseau des bibliothèques départementales. Chez les libraires aussi.
Tout à fait. Et
le petit fascicule, en tout cas, la sélection des 120, on va les retrouver dans les médiathèques, mais pas seulement. Où est-ce qu'on peut se procurer au plus proche?
Alors, on envoie dans toutes les librairies de l'heure. On va envoyer aussi dans les centres sociaux, au foyer de l'enfance, au PMI, pour les assistantes maternelles qui puissent se le retrouver. Maintenant ça s'appelle les relais petite enfance pour les assistantes maternelles, les collèges, on envoie aussi aux professeurs documentalistes de collège, toutes les bibliothèques forcément.
Oui, ça fait du coup une sacrée couverture départementale, oui, accéder à cette sélection.
On le tire à 8000 exemplaires.
On peut retrouver sur internet cette sélection ou pas?
Oui, tout à
parce
fait.
Que moi dans ma boîte aux lettres personnelle, je suis pas un centre social, je suis pas une PMI.
Non.
Comment est-ce que je retrouve toutes ces infos?
Vous pourrez retrouver sur le site de la médiathèque de l'heure. Il y aura un onglet petit lu et il sera disponible.
Et ben voilà, alors est-ce que ça existe pour les plus grands aussi ce type de sélection? Parce que maintenant que vous nous avez parlé de cette sélection jeunesse, est-ce qu'il y a certaines de vos collègues qui font les grands lus?
Alors,
par exemple,
non, le grand lu n'existe pas, je soumettrai l'idée. Mais
non, parce que c'est toujours intéressant d'avoir le regard des professionnels sur des sélections littéraires, en fait.
Oui. Alors, souvent, les bibliothécaires font tous des coups de cœur et les publient sur leur réseau, etc. Mais sur cette version vraiment imprimée et brochée, non, à la médiathèque, on ne le fait pas, départementale.
Très bien, c'était juste pour parce que c'est vrai que maintenant j'ai pour les enfants les lectures par tranche d'âge, je voulais avoir mes lectures à moi.
Hein. Faut lire les livres pour enfants, ça se lit aussi bien quand on est adulte, on les savoure tout autant.
C'est vrai, c'est souvent un bon album jeunesse, finalement c'est aussi un bon album adulte.
Donc on aura beaucoup de cœur pour les adultes aussi, une autre publication.
Alors malheureusement, je lis beaucoup trop de livres jeunesse pour avoir beaucoup de temps pour lire les livres adultes, donc ça sera pas moi qui vous les donnerai.
Eh ben merci Céline Joubert de cette présentation. Il y avait d'autres éléments particuliers sur les petits lus ou sur la littérature jeunesse, moments attendus.
Alors là, on a la chance, Bernadette Gervais, vu qu'elle vient de Belgique quand même, elle va rester toute la semaine. Donc on va la retrouver le mardi 3 décembre à Louviers. Donc le matin, elle fera des ateliers avec des classes et l'après-midi sur une rencontre aussi tout public. Sachant qu'elle a son exposition, une exposition Métamorphose qui sera dans les locaux de la médiathèque, donc je ne peux que vous inciter à aller voir l'exposition et à la rencontrer aussi là-bas. Le mercredi, elle sera dans les médiathèques de Vernon, donc le Vernon le matin et Tourny l'après-midi. Elle animera un atelier tote bag auprès de gens, donc c'est un atelier sur inscription. Et le jeudi, elle sera dans des écoles à la Bonne Ville et aux Ventes.
Et l'expo à la médiathèque départementale, on la trouve où?
C'est... À Louviers.
C'est à Louviers.
C'est la médiathèque municipale
de Louviers. Qui
avait vraiment envie de s'investir aussi avec nous sur ce projet-là.
Et celle qui accueille l'exposition.
Oui, jusqu'au 18 décembre. Donc allez-y, allez la voir. Et c'est gratuit.
Mais c'est ça qui est important. C'est aller à la médiathèque.
Puis en même temps, on peut prendre sa carte et prendre des bouquins. C'est formidable.
Exactement, c'est gratuit aussi, la carte, c'est formidable.
Prendre les bouquins de la sélection du Petit Lu.
Mais tout à fait.
Oh, comme quoi la vie, elle est bien faite. Quelque chose à ajouter, Florence? Non, je t'ai oublié de te rapprocher du micro, c'est pour ça.
Non, c'est très clair.
D'accord. Oui. Merci beaucoup Céline d'être passée par nos micros. Je rappelle, vous êtes médiathécaire jeunesse pour la médiathèque départementale de l'Eure.
Merci à vous.
On repart en musique, Marie, si nous avons bien tout suivi, avec une sélection, alors du coup, à toi ou à la médiathèque départementale?
De la médiathèque départementale cette fois. Et donc, c'est un artiste qui s'appelle Masterpiece et qui... alors, l'extrait, c'est Senti la dengue. Moi aussi, j'ai des petits problèmes de prononciation. On écoute le morceau et je le présenterai après.
Yeah, I don't stand this. See it. Yeah, ha, ha, ha. Come on, talk over man's sheep.
Yeah. Oh, I don't wanna waste your time. I just wanna live this life. Cause I'm free. Free. Can we do the shang da da dang da dang da dang? Hey, shang da da dang da dang da dang. Can we do the shang da da dang da dang da dang? Hey, shang da da dang da dang da dang. Hey, they said I got drugs. No, I don't. They said I smoke weed. Maybe oh, shang da da dang da dang da dang. Hey, you come to the spot, you get yourself laid. I'm not about it. I don't claim to be. For my friends, we'll take you for 50p. I'm not about it, but my friends will. We'll be chained for a Ramadan. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, my sister's got the shanga danga dang. Hey, my brother's got the shanga danga dang. Hey, ranga danga danga dang. Hey, don't come to London, you can get robbed. Don't come to London, you can get for your ranga danga dang. I got my hood mates and my white niggas. I got my hood mate and my yo.
Listen to the sound, are you hearing me? When I put my boots to the ground, nothing in my way. By the time you turn around, you can barely see. Circles round you, move so fast, now I levitate. Everybody talk like they all got hard on this block. I stay on my own, I'm just taking it all in stock. See, we all got game, I'm about to play them like a disc jockey.
How you get weighed with the shine, da 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 da. Hey, never rat on your brothers, get paid. Never rat on your brothers, get paid with the shine, da 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 da. Hey, the police wanna arrest me and my mates. I just wanna get myself some good grades. My mom told me that she gonna send me away with the shine, da 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 da. Hey, shine,
living in a British country. I'm a black boy living in a white country. I'm a white boy living in a black country. But they don't love me, and I know I'm weak. We're the Shangala-dang-a-dang-a-dang. Hey!
Donc le morceau c'était Senti la dengue de l'artiste londonien Masterpiece. Donc c'est issu de son premier album qui est sorti en mars 2024 qui s'appelle How to Make a Masterpiece. Voilà, c'est de l'électropop avec beaucoup d'influences variées. Il y a de l'indie, du jazz, du funk, de l'électro. Voilà, c'est très frais et très dynamique. J'aime beaucoup.
Eh bien, c'était un beau repérage de la médiathèque départementale en
tout
cas.
Fait.
Voilà.
Et retrouvable sur la plateforme MusicMe. La médiathèque.
Eh ben oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut retrouver tout ça sur les plateformes exactement. Nous arrivons au moment des rendez-vous sur le mois de novembre et décembre.
Oui, alors pour aller assez loin aux vacances de Noël, donc c'est les visites guidées de l'abbaye Saint-Nicolas dont on a parlé tout à l'heure. C'est l'occasion de voir le parloir de l'abbesse justement lors de ces visites.
Ouais, non, est-ce qu'on les enchaîne ou pas?
Ouais, non, je te laisse enchaîner avec le deuxième rendez-vous de décembre. Moi, je suis plus sur fin novembre.
Ah, voilà, oui, chacune a ses...
Chacun son mois, voilà, c'est ça. Bah, le 7 décembre, c'est Gravigny en lumière. C'est à 18h. Il y aura des spectacles féeriques et des animations et plein d'autres choses à découvrir. Donc, à Gravigny, près d'Évreux.
Oui, alors ben, on rentre dans le mois de décembre. Effectivement, à partir du 1er décembre, ça, vous pouvez retrouver ça sur les sites des comptoirs du loisir ou Eureka. Il y a beaucoup de petits marchés de Noël et de petits festivals autour de Noël un peu partout dans l'heure. Mais ce week-end, alors il y a aussi la fête foraine qui ouvre ses portes au Bélébat ce week-end. Il y a aussi au Manesti une énorme expo sur le monde des dinosaures. Ce soir, il y a la Brasserie Sport qui rouvre sa session karaoké pour les fans de karaoké de 20h à 23h. Et puis au Cube ce soir, il y a un concert Cube Kids qui s'appelle Secret de Beatmakers. Ça retrace l'histoire des musiques électroniques, de ses instruments, ses genres, ses techniques. Voilà, c'est à 19h30 au Cube. Et il y a aussi une grosse programmation au Théâtre Le Gendre, au Cadran, au Cube tout ce mois-ci que vous pourrez retrouver sur le site du Tangram.
Et il y a la cidrerie aussi.
Ah oui, pardon. En effet, c'est pas une petite date en plus. C'est Tété qui est assez connu et qui passe à la cidrerie de Beuzeville le 29 novembre.
Et ben c'est...
Voilà, c'est à peu près tout pour les gros. Mais bon, effectivement, sur le site Eureka, comptoir des loisirs, vous pouvez retrouver les agendas de tout ce qui se passe dans l'heure.
Exactement, et puis comme c'est non exhaustif, vous ferez vous-même aussi vos petites recherches, parce que sur les fêtes de fin d'année, enfin sur la période de fin d'année même plus largement, et les vacances de fin d'année également, beaucoup d'événements un petit peu partout et proche de chez vous forcément. Ça nous amène gentiment à cette fin prématurée d'émission, comme on pourrait dire. Les perturbations météorologiques auront eu raison de notre programmation prévisionnelle. Mais c'est pas bien grave, parce qu'on aura dit l'essentiel.
Tout à fait.
Nous, on se donne rendez-vous bientôt.
Oui.
Vous avez la date, une de vous...
Le
les dates.
24 janvier.
Eh bien... Le 24 janvier. Ah oui, parce que nous avons la trêve hivernale, oui. Exactement.
Comment
et on se retrouvera le 24 janvier. Restez à l'affût de tous les événements qui se passent autour de chez vous. Il y en aura un paquet.